Donc pour vos prières pour Haïti, vous savez que Haïti avait connu des élections il y a un an qui avaient été contestées, annulées. Et alors il y a eu à nouveau des élections. Et là encore, il y avait encore des contestations, mais je loue le Seigneur parce que finalement ça s'est très bien passé, donc relativement dans le calme. Et maintenant, il y a un nouveau président. Et ce qui m'a touché, c'est que il a été investi le mardi passé. Ce qui m'a touché, c'est que ce nouveau président, vous savez ce qu'il a dit à la fin de son discours? Priez pendant 3 jours pour moi, pour que Dieu me donne la sagesse. C'est extraordinaire. Peut-être pour certaines personnes, c'est anecdotique, mais pour moi, ça m'a vraiment touché. Et j'ai un couple américain missionnaire qui sont des amis et qui m'ont écrit et qui m'ont dit, donc voilà, ils étaient invités par le président à prier pour qu'il prie pour lui. Je trouve ça extraordinaire. Et donc je remercie le Seigneur et je remercie tous ceux qui ont prié avec moi. Et Dieu est grand. Donc Dieu répond à la prière. Depuis la semaine passée, on a, donc à l'église de Terbec, on a commencé à étudier l'épître de Jacques. Et alors, ça m'a inspiré à apporter aujourd'hui un message tiré de l'épître de Jacques. Ces derniers temps, j'ai beaucoup prêché à partir de Luc, donc aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler à partir de l'épître de Jacques. Et donc, c'est le tout premier chapitre. Les 12 premiers, pardon, les 8 premiers versets. Jacques, de la part de Jacques, serviteur du Seigneur, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Amen. La sagesse, c'est de cela que nous allons parler ce matin, la sagesse selon Dieu. La sagesse est essentielle dans la vie parce que la sagesse détermine la réussite ou non de notre vie. Pour ne l'avoir pas eue, eh bien, certaines personnes ont mené une vie triste et misérable et d'autres ont connu une vie malheureusement plus courte que prévue. Mais en quoi consiste la sagesse? En quoi consiste la sagesse? D'où vient la sagesse et comment l'obtenir? C'est l'un des sujets abordés et traités par Jacques dans son épître. Jacques traite la vraie foi, la vraie sagesse, la vraie religion. Et donc, la sagesse, c'est l'un des sujets abordés et traités par Jacques. Mais avant de poursuivre, entendons-nous d'abord sur l'identité de l'auteur de l'épître. De quel Jacques s'agit-il? Parce que dans le Nouveau Testament, on a au moins, il est mention d'au moins quatre Jacques. Il y a d'abord Jacques, le fils de Zébédée et frère de Jean, l'un des douze. Et puis il y a aussi Jacques, fils d'Alphée, appelé le mineur, aussi l'un des douze. Donc on a deux Jacques, disciples de Christ, qui faisaient partie des douze. Et puis il y a aussi Jacques, le père de Jude, appelé aussi Thaddée. Et enfin, il y a Jacques, le frère de Jésus, qui a joué un rôle important dans l'Église primitive, que Paul disait qu'il était un des piliers dans l'Église, qui a joué aussi un rôle important à la conférence de Jérusalem dans Acte 15. Il faut savoir que ce Jacques, au départ, on peut dire, n'était pas chrétien. Si on peut lire comme on peut lire dans Jean 7, verset 5, les frères de Jésus, à un moment donné, donc ne croyaient pas en lui. Mais par après, eh bien, ils vont croire en Jésus. Et ce Jacques en question, donc, sera à la fin un disciple de Christ. Et nous lisons aussi dans 1 Corinthiens 15 qu'il est l'une des personnes à qui Jésus s'est révélé après sa résurrection. Alors donc ici, l'épître a été écrit par le frère de Jésus, Jacques. Et on voit l'humilité de Jacques ici lorsqu'il s'adresse disant, il ne se présente même pas comme le frère de Jésus, mais il dit tout simplement serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il se présente donc humblement. Et là, il va parler des épreuves et aussi de la sagesse. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. La sagesse, comme je l'ai déjà dit, c'est important dans la vie. Mais c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la capacité à faire le bon choix, à prendre les bonnes décisions quant à ses relations et ses actions. La sagesse ne consiste pas en simplement de la connaissance ou du savoir, mais dans la bonne utilisation de ce savoir. On peut connaître, mais ne pas bien utiliser cette connaissance. La sagesse, donc, c'est bien utiliser cette connaissance. On peut avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, et mal l'utiliser. Ce qui peut amener bien souvent à la catastrophe. On dit souvent qu'une connaissance partielle ou imparfaite des choses peut aussi être très dangereuse. Car une connaissance partielle des choses, des situations, peut amener à des conclusions erronées. On dit, ah, je pensais que, parce qu'on a une connaissance partielle des choses. On pense savoir ou maîtriser la matière alors qu'on a beaucoup de lacunes. Dimanche passé, je discutais avec quelqu'un de l'église de Terbeek et j'ai appris qu'il était coach. Et j'ai dit, ah, c'est intéressant ça d'être coach. Et il dit, il est le coach des adolescents d'environ 17 ans. Il dit, c'est très difficile parce que à cet âge-là, il pense qu'ils savent tout, mais à ce moment-là, ils n'écoutent pas les conseils et ça rend les choses difficiles. Donc, voilà. À cet âge-là, l'enfant commence à connaître un peu les choses, à découvrir un peu les choses. Et l'enfant pense, ah oui, maintenant je connais tout, je peux me passer de mes parents. Ce qui peut amener à des problèmes assez graves. Car la sagesse consiste à peser, à juger les événements, les situations, les circonstances, et prendre les bonnes décisions adéquates. La sagesse, c'est l'art de bien diriger sa vie. Donc la sagesse, c'est faire le bon choix, prendre les bonnes décisions, bien diriger sa vie. Mais pour cela, il faut le discernement. C'est notre deuxième point. Il faut le discernement. Pour bien diriger sa vie en faisant les bons choix, il faut le discernement. Le discernement, c'est la capacité à reconnaître le bien du mal. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Certains appellent bien ce qui est mal, et d'autres appellent mal ce qui est bien. D'autres croient faire le bien alors qu'ils font le mal. Et ce ne sont pas tous ceux qui font le mal qui sont mal intentionnés. On peut donc faire le mal tout en étant bien intentionné. Parce qu'on est aveuglé, parce qu'on est mal éclairé. Et même si on est bien intentionné, si on fait le mal, le résultat est le même, déplorable, catastrophique. D'où l'urgence d'avoir le discernement, la véritable sagesse. Alors, comment savoir ce qui est bien et ce qui est mal? Eh bien, il faut demander à Dieu, comme l'exhorte ici Jacques. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Il faut demander à Dieu sa lumière, sa sagesse, qui donne à tous simplement sans reproche. Pour discerner donc, il faut connaître Dieu et sa parole. La véritable sagesse vient de Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a pas de sagesse. Voilà pourquoi la sagesse et la foi sont intimement liées. La foi et la sagesse sont liées. Celui qui ne croit pas ne peut pas avoir de la sagesse, car il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu en lui. La foi dont il est question ici, ce n'est pas un assentiment intellectuel. Je crois que Dieu existe. Mais c'est une foi authentique qui s'abandonne totalement à Dieu. Vous êtes assis, chacun sur une chaise. Vous avez confiance en la chaise, que vous n'allez pas tomber. Et vous vous abandonnez. N'est-ce pas? La foi, c'est s'appuyer sur Dieu et le laisser nous diriger. Abraham crut en Dieu, et alors Dieu lui dit, va, et il va. Il ne se pose pas de questions. Puisque Dieu l'a dit, eh bien, je vais. Donc la foi, c'est s'appuyer sur Dieu, c'est s'abandonner tout à fait. Celui qui doute, c'est celui qui ne s'est pas encore tout à fait abandonné à Dieu. C'est comme celui qui a un pied dedans, un pied dehors. Et là, Jacques dit, si c'est ainsi, tu ne réussiras pas. Tu ne dois pas douter. Tu dois vraiment t'abandonner à Dieu. C'est celui qui doute, celui qui hésite, c'est celui qui garde encore sa distance. C'est celui qui est comme au seuil du bâtiment. Il ne veut pas entrer et il ne veut pas être dehors non plus. Et là, ça ne va pas. Donc celui qui croit, c'est celui qui fait pleinement confiance à Dieu et à sa parole et qui le cherche de tout son cœur. Celui qui hésite, c'est celui qui connaît peut-être la parole de tête, mais pas avec le cœur. Et c'est pourquoi eh bien, il n'obtient rien. Il n'obtient rien quand il demande, parce qu'il ne demande pas avec confiance. Il ne demande pas avec son cœur. À ce moment-là, lorsque on ne se donne pas entièrement, lorsqu'on a un pied dedans, un pied dehors, qu'est-ce qui se passe? On n'obtient rien, on est frustré. Soit, on a la crainte des hommes, et alors nos décisions sont guidées par la peur de les décevoir, par la peur des candidats. Soit, on a la crainte de Dieu, et alors nos décisions sont prises à la lumière de sa parole et de notre connaissance de sa volonté, de ce qui lui plaît ou ne lui plaît pas. Alors on mène une vie libérée, épanouie, conscient que Dieu nous accueille dans sa présence, quelles que soient les circonstances. Vivre, faire le choix selon la sagesse de Dieu n'est pas toujours facile. C'est pourquoi peu nombreux, eh bien, le fassent. Marcher selon la volonté de Dieu, faire ce qui plaît à Dieu, n'est pas toujours facile. Et donc, très peu le fassent par conséquent. Parce que cela implique quelquefois des sacrifices, des renoncements à certains avantages fugaces, à certains plaisirs éphémères. Je veux vous donner quelques exemples concrets. Joseph, le patriarche, lorsqu'il était tenté par la femme de Potiphar, eh bien, Joseph a résisté. Il a fait le bon choix. Pourquoi est-ce qu'il a fait le bon choix? Parce qu'il avait la crainte de Dieu en lui. Si Joseph avait la sagesse selon le monde dirait, « Ah, profite! Voici une occasion qui s'offre à toi. Là, tu seras vraiment le maître de la maison puisque tu as la femme de Potiphar. » Donc, mais Joseph n'a pas choisi le plaisir immédiat, le plaisir éphémère, mais il a choisi de plaire à Dieu. Et cela va lui coûter, parce qu'il va perdre son job. Il va perdre son job. Et donc, voilà un sacrifice pour Joseph. Il va être, il va être faussement accusé. Il va être faussement accusé. Il ira même en prison. Pourtant, il a fait le bon choix. Donc, lorsque tu fais le bon choix, c'est pas toujours agréable dans l'immédiat. C'est pas toujours compris dans l'immédiat. C'est pas toujours applaudi dans l'immédiat. Et donc, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire le bon choix si tu n'as pas la crainte de Dieu. Un autre exemple, c'est Daniel, le prophète, qui renonça aux mains du roi de Babylone parce qu'il voulait plaire à Dieu plus qu'aux hommes. Daniel était loin de sa patrie, loin de son pays. Donc il pouvait dire, je suis loin de ma patrie, loin de mon pays, oublions la religion de mon pays. De toute façon, à Babylone, il n'y a pas le temple. Parce que la religion d'Israël, le centre de la religion, c'était le temple. Or, à Babylone, il n'y avait plus de temple. Il pouvait dire, ah, je suis loin du temple, loin de mon peuple, et je peux faire comme les gens de Babylone. Mais pourtant, Daniel a résolu dans son cœur de continuer à rester fidèle à son Dieu. Et il a choisi de ne pas manger les mets du roi. Et là encore, ce n'était pas un choix facile. Parce que refuser de manger le mets du roi, eh bien, c'est risquer de se mettre en porte-à-faux avec le roi, de s'exposer à sa colère, à son mécontentement. Et cependant, Daniel a fait ce choix-là. Il a fait ce choix-là dès l'arrivée à Babylone. Et Dieu lui a fait grâce. Plus tard encore, quand le roi va ordonner que tout le monde devait s'agenouiller devant la statue, eh bien, Daniel restera fidèle à son Dieu et il va faire un choix difficile. Mais Dieu l'a béni à la fin. Donc, faire le bon choix n'est pas toujours facile. Mais Dieu nous promet sa grâce. La sagesse, donc, c'est vouloir plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si tu cherches à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, alors tu es sage. Malgré tes connaissances limitées des hommes et des situations, Dieu lui-même t'aidera si tu le cherches et le lui demandes. C'est vrai, pour prendre une bonne décision, parfois il faut bien connaître les détails, le tout. Si tu as une connaissance partielle, c'est difficile de prendre une bonne décision. Mais nous ne connaissons pas tout, nous ne savons pas tout. Et alors, c'est pourquoi il faut s'appuyer sur Dieu, parce que Dieu, lui, il connaît tout. Il connaît le passé, le présent et l'avenir. Et il connaît le présent dans tout son ensemble. Par exemple, nous sommes ici à Boisvillers. Nous savons ce qui se passe dans cette petite salle ici. Mais nous ne savons même pas ce qui se passe à côté. Nous ne savons pas ce qui se passe à Bruxelles. Nous ne savons pas ce qui se passe ailleurs. Mais Dieu sait tout. Donc Dieu connaît mieux que nous le présent, le passé et l'avenir. Et donc c'est pour ça que nous devons nous appuyer sur lui et chercher donc de lui la sagesse de dire, ok, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est pour ça donc que Jacques dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, c'est-à-dire vraiment s'abandonner à Dieu et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et lorsque le Seigneur nous répond, de faire vraiment ce qu'il nous dit de faire. Je me rappelle toujours d'une publicité qui passait à la télévision il y a bien des années de cela. On voyait une dame qui avait acheté deux robes. Je pense à une bleue et une rouge. Et alors qu'il va demander, je ne sais pas si c'est son fiancé ou petit ami, peu importe. Elle est allée demander à son homme, qu'est-ce que tu préfères, la bleue ou la rouge? Alors l'homme dit, ah, la bleue. Et puis après, elle va mettre la rouge. Donc elle demande l'opinion de son homme, mais elle fait le contraire de ce que son homme lui a dit. Et donc Jacques dit, si tu demandes à Dieu, il faut demander avec foi. C'est-à-dire demander vraiment sincèrement. Et pas simplement demander pour conforter ton préjugé. Hein, certaines personnes demandent conseil, mais c'est simplement si c'est pour conforter leur préjugé. De dire, ah oui, j'avais raison, ok. Il l'a dit, ok, donc j'avais raison. Mais si on dit à la personne une opinion contraire à son préjugé, à ce moment-là, ça ne va pas. Donc ici, Jacques dit, si. Demande à Dieu, mais lorsque tu demandes, il faut demander avec foi, sans douter. C'est-à-dire vraiment faire confiance à Dieu. De savoir que Dieu te veut ce qu'il y a de meilleur. Hein? De placer ta confiance dans le caractère de Dieu, dans la personne de Dieu. Je sais que Dieu veut mon bien, même si aujourd'hui, ce choix-là peut paraître difficile. Ce choix-là peut faire mal. Mais je sais que c'est comme un médicament, même si le médicament est amer, mais à la fin, je serai guéri. Amen. Et donc, voilà. Donc, que celui qui demande, demande avec foi. Et lorsque tu marches selon la parole de Dieu, lorsque tu t'abandonnes vraiment au Seigneur, alors le Seigneur t'aidera. Il y a une autre situation dans la parole de Dieu où on envoie une délégation à Jérémie pour connaître quelle est la volonté de Dieu, pour consulter l'homme de Dieu. Mais en fait, il n'était pas vraiment intéressé à connaître la volonté de Dieu. Et ils avaient déjà en tête ce qu'ils voulaient faire, et ils sont quand même venus voir le prophète de Dieu. Et Jérémie leur a dit encore ce que le Seigneur leur avait déjà dit auparavant. Et bien sûr, ils n'étaient pas contents, et ils ont mis Jérémie en prison. La sagesse, c'est vouloir plaire à Dieu et faire sa volonté. Et pour connaître sa volonté, il faut vraiment s'abandonner à lui tout à fait. Pas à moitié, pas à trois quarts, pas à 90%, pas à 99%, mais à 100%. Et alors le Seigneur va te guider et il va te donner la victoire, même si pendant un temps tu ne vas pas connaître le plaisir, comme dans le cas de Joseph, même si pendant un temps ce sera difficile, tu seras peut-être jeté dans la fosse aux lions comme Daniel, mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph est devenu premier ministre. Daniel est resté dans l'administration pendant 60 ans au moins de sa vie. Daniel occupait une place élevée à Babylone. Sans faire de compromis. C'est extraordinaire. Sans faire de compromis. Donc certains qui pensent, qui disent, ah, est-ce que c'est possible d'être dans l'administration publique et ne pas être corrompu et ne pas être mélangé à des choses? Daniel l'a fait. Donc ça veut dire que c'est possible. La sagesse vient de Dieu. Et la sagesse est aussi liée à la foi. Donc il faut avoir la foi. La foi en Dieu, une foi sincère, une foi authentique qui s'abandonne à Dieu. Et lorsque tu t'abandonnes entièrement à Dieu, tu as cette communion avec Dieu, eh bien le Seigneur te donne sa lumière et tu peux marcher avec sa lumière. Tu peux connaître des difficultés, mais tu auras toujours la victoire. Parce que tu es avec Dieu, tu es en Dieu. Comme Pasteur Pascal l'a dit, Dieu est devant nous, il est derrière nous, il est à côté de nous, il est en dessous, il est partout, il est avec nous, donc nous sommes en Dieu. Et donc, il nous donnera la victoire. Et donc, nous serons appelés aussi, comme Daniel, des gens sages et aussi intelligents. Parce que l'intelligent, c'est celui qui a aussi une bonne compréhension des choses. Même lorsque nous ne saisissons pas tout le pourtour, mais puisque nous aurons fait le bon choix, nous serons aussi appelés non seulement sages, mais aussi intelligents. Parce que nous aurons accompli la volonté de Dieu. Amen. Donc Dieu nous appelle à faire sa volonté, à avoir sa crainte, c'est-à-dire, que veux-tu Seigneur? Je veux faire ta volonté, et rien que ta volonté. Et lorsque nous faisons cela, eh bien nous sommes vraiment sages. Que le Seigneur nous aide à vraiment rechercher à faire sa volonté, à vivre pour lui, et lui-même, eh bien, manifestera sa gloire dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci, Pasteur Martin. Alors, on pourrait prier.